Combes, pauvre Marcel. AGT, témoignage de ma reconnaissante affection. Première partie. Le service funèbre était terminé. Le prêtre s'éloignait et la grande croix noire, portée par un enfant de chœur, s'inclinait au-dessus des tombes comme pour les bénir avant de les quitter. Les oiseaux, un instant interrompus par la cérémonie, reprenaient leur chant et sautillaient sur le vieux mur. Un doux soleil de juin éclairait le petit cimetière, piquant ci et là d'une vive étincelle les socles de granit et l'or des inscriptions. Les hautes herbes se balançaient mollement et le seringa fleuri envoyait des bouffées de parfum à la brise voyageuse. Sous le porche de l'église, une sainte vierge souriait dans sa niche, ornée de mousses fraîches et de fleurs. En traversant cet enclos si paisible et tout ensoleillé, on se disait que les morts devaient y être bien pour dormir. Quelques femmes du village, restées les dernières auprès de la tombe récente, s'éloignaient maintenant en parlant à voix basse. « Pauvre garçon !» dit l'une d'elles en se retournant avant de descendre les quelques marches qui, du cimetière, conduisaient à la route. « Pauvre garçon, il ne peut se décider à quitter sa mère. Elle n'était pas tendre pourtant, la vieille Anastasie. »« Silence !» dit une autre. « Il ne faut pas mal parler des morts, surtout à la porte du cimetière. Monsieur le curé s'occupera de Marcel. » Mon mari avait bien proposé de l'engager comme domestique jusqu'à la fin des heures, mais que voulez-vous faire d'un garçon qui n'a pas tout son esprit? On dirait qu'il dort en marchant, quoiqu'il ait les yeux ouverts et aussi grand que la lune. Et puis, si on le gronde, il n'a pas l'air d'en entendre un seul mot, ce qui fait qu'on n'a point de plaisir à causer avec lui. « Nous avons eu Marcel aux fenaisons passées, » dit une jeune femme à l'air tranquille et doux. Il est aussi bon ouvrier que les autres, meilleur peut-être, car il ne perd pas son temps à bavarder comme eux. Mais quand une de ces lubies le prend, interrompit une petite blondine aux cheveux frisés, il reste là, planté au beau milieu de son andain, les yeux perdus je ne sais où, comme s'il écoutait des voix que personne n'entend. Dans ces moments-là, je vous jure qu'il ne pourrait dire s'il tient sa fourche par la queue ou par les dents. Et quant à savoir si la faneuse est laide ou jolie, il n'en donnerait pas une coquille, le nigaud. Pauvre Marcel, reprit la jeune femme au parler tranquille, qui est-ce qui aura soin de lui maintenant? Si on lui met la cuillère dans la main, il mange. Autrement, il n'y pense pas. Anastasie a laissé des dettes, on vendra les meubles, la biquette, tout le pauvre ménage. C'est l'affaire de monsieur le curé, interrompirent les autres en chœur. Les innocents, les orphelins, ça le regarde, c'est sa famille à lui. Puis le petit groupe se dispersa et la route fut bientôt aussi déserte que le cimetière. Seul, seul au monde, que reste-t-il à ce pauvre garçon, encore à genoux auprès du petit être fraîchement remué, derrière le grand sureau qui le dérobe à la vue des passants? Le front appuyé contre les rigides bras de fer d'une croix voisine, les mains serrées l'une contre l'autre, il ne pleure pas, il ne pense même pas, il ne peut que sentir son abandon. Mille sensations confuses tourbillonnaient dans son pauvre esprit troublé. Tous les siens déjà sont au cimetière, son père dort depuis bien des années, sous cette pierre grise, là-bas. Sa mère est maintenant froide et muette dans son cercueil. Il semble à Marcel que des voix s'élèvent des tombes et lui crient « Reste ici !» Il frissonne et se redresse en sursaut, puis porte la main à son front que le contact du métal a comme enserré d'un cercle glacé. Il regarde longuement autour de lui et ses yeux, vagues et rêveurs, semblent chercher quelque chose. Mais bientôt, le pauvre garçon s'affaisse de nouveau dans son attitude désolée. Le sentiment accablant de la solitude est tombé sur lui et l'écrase. Là-bas, dans le village au toit gris, dans les fermes groupées au pied des pâtures, dans les champs où des troupes d'ouvriers achèvent les labours printaniers, dans tout ce coin de terre enfermé par les hautes montagnes qui se dressent à l'horizon, Marcel n'a pas un seul ami. Il n'a jamais été comme les autres. Sa gaucherie, ses airs sauvages, son regard toujours distrait ou étonné, était un perpétuel sujet de raillerie pour ses camarades. Tout enfant, il avait souffert de leurs méchants tours auxquels il se laissait prendre toujours de nouveau, car sa bonne foi simple et naïve ne soupçonnait jamais la tromperie. Quand on l'avait envoyé chez l'épicier acheter de la graisse de sauterelle ou toute autre denrée invraisemblable, et que le marchand indigné lui montrait la porte, Marcel s'en allait tête baissée, rêvait tristement à la méchanceté de ses compagnons. Il était tout disposé pourtant à les aimer, à les servir. Jamais il ne se refusait à garder les sacs et les ardoises pendant une partie de billes au sortir de la classe, quelque envie qu'il eût de prendre lui-même part au jeu. Le soir, en été, quand les enfants du village accouraient au sentier de Joseph Blanquet pour y jouer, c'était Marcel qui improvisait des balançoires, traînant des planches et roulant des poutres plus lourdes que lui. Il s'y écorchait les mains sans regret, content de voir les autres sauter et rire, heureux et enchanté si quelqu'un songeait par hasard à lui dire merci. Il manquait totalement d'égoïsme. C'est pour cette raison sans doute qu'on le trouvait si bête. « Il ne s'est rien gardé pour lui, » disait sa mère, Anastasie la fileuse, qu'on accusait d'avoir des doigts crochus auxquels il restait toujours un peu de laine. « Je ne sais où j'ai pris ce garçon-là. » Elle l'aimait sans doute à sa manière, et plus d'une fois, elle avait frotté rudement les oreilles des garnements qui le mystifiaient. Mais elle le rudoyait elle-même de la belle façon. « Pauvre Marcel !» Sa mère lui répétait sans cesse qu'il n'était qu'un imbécile, il le croyait humblement et s'en affligeait encore plus à cause d'elle que pour lui-même. « Si seulement j'étais comme les autres !» s'écriait-il parfois avec amertume. Puis il s'en allait dans les bois et racontait sa peine au vieux sapin, ses amis et ses confidents. Il se jetait dans l'herbe, y cachait son visage et versait des larmes passionnées. Parfois, sans savoir pourquoi, il enserrait de ses bras les troncs rugueux et son cœur bondissait en un élan de tendresse et de désir sans objet. Là-bas, les garçons et les fillettes jouaient ensemble dans les grands prés. Marcel eût voulu courir à eux, mais une crainte instinctive le retenait à l'écart. Une délicatesse innée qu'on ne soupçonnait guère lui fit de bonne heure choisir la solitude. Il aimait la nature et surtout ses champs. Ce fut ce qui sauva son intelligence d'un obscurcissement complet et mit un peu de joie dans sa vie. Quand la petite blondine que nous avons rencontrée à la porte du cimetière assurait que Marcel semblait parfois écouter des voix inconnues, elle ne croyait pas si bien dire. Les harmonies fugitives des bois le ravissaient, il pouvait passer de longues heures à écouter la cantilène plaintive du vent dans les branches, le bruissement des feuilles et le murmure tourbillonnant des moucherons. Il apprenait à saisir les nuances infiniment délicates de cette musique toujours la même et toujours variée. Les grands sapins lui racontaient des histoires, les pinsons étaient ses amis et leur trille joyeux raillait gaiement son chagrin. À la longue, ces voix de la forêt lui devinrent si familières qu'il les comprenait mieux que le langage des hommes. Sa taciturnité augmenta. On s'était si souvent moqué de sa naïveté qu'il préférait garder le silence. « Il n'est pourtant pas idiot, » disait le maître d'école, « mais son esprit est ailleurs. » Je le crois bien que son esprit était ailleurs. Dans l'atmosphère étouffante de la classe, au milieu du bruit grinçant des plumes et du bourdonnement monotone des leçons, Marcel pensait au grand bois où mille virtuoses donnaient en ce moment un si beau concert. Quand la voix nasillarde du maître le tirait de sa rêverie, il se levait tout troublé et jetait au hasard quelques réponses maladroites qui excitaient l'hilarité des autres écoliers. Cependant, tant bien que mal, il apprit à lire, à écrire et à compter. On logea dans sa mémoire quelques bribes de catéchisme et monsieur le curé l'admit à la communion. Il accomplit certainement cet acte religieux avec plus de ferveur naïve et recueillie que la plupart de ses compagnons. Dès lors, les bois de la forêt lui parlèrent de Dieu et de son amour. Il grandissait ainsi, vivant d'une vie rêveuse et solitaire, plein de vagues aspirations auxquelles il ne savait comment donner essor. Un heureux hasard survint qui fit un musicien de ce poète sans voix. C'était en automne, de longs brouillards gris s'étendaient sur les prairies où les vaches broutaient les derniers regains. Ça et là brillaient les feux de broussailles où les petits bergers transis venaient se chauffer les mains et cuire des pommes de terre sous la cendre. Marcel, qui avait alors 14 ans, était entré comme bovi au service d'un riche paysan des environs. Mais celui-ci, jugeant qu'un seul berger ne pouvait suffire à la surveillance d'un troupeau de plus de 40 bêtes, lui adjoignit un autre garçon, à peu près du même âge, qui se trouva être un incomparable paresseux. Il restait tout le jour allongé au pied d'un mur, les mains dans ses poches et sifflotant entre ses dents. Parfois, il apportait avec lui une jolie flûte d'ébène qui s'était échouée je ne sais comment dans la misérable cabane de son père et sur laquelle on lui avait appris à seriner l'air de Malbrou. Étendu nonchalamment auprès des tisons de la torée, il jetait au vent les notes de cette admirable mélodie, tandis que Marcel courait à perdre haleine d'un bout à l'autre du pré pour retenir son grand troupeau dans les limites permises. Un jour enfin, il perdit patience. « Tu ne fais rien, Antoine, je le dirai au maître. »« Ça me fatigue, » répondit l'autre en étendant ses longs bras de manière à en faire craquer toutes les articulations. « Vois-tu, c'est bon pour ta santé d'avoir un peu à courir. Tiens, voilà Papillonne qui mange l'avoine du père Bonnet. Ne vas-tu pas la retourner ?»« Vas-y, toi, » répondit Marcel en s'asseyant tranquillement sur une pierre. Antoine le regarda stupéfait, mais comme Papillonne prenait décidément de trop grandes libertés dans le champ du voisin, il y courut et pourchassa la délinquante jusqu'à l'autre bout du mur. Après cet effort considérable, il vint tomber tout essoufflé auprès du feu. Marcel se repentait déjà de cette rébellion inouïe. Fort heureusement, il n'en laissa rien paraître. « Dis donc, » fit Antoine après un moment de silence, « sais-tu que ça m'ennuie comme tout, ces vaches, ces moutons et tout le Bataclan? Si tu t'occupais de ça, moi, je surveillerais le feu et je cuirais les pommes de terre. Chacun sa partie. » « Non, je ne veux pas, » répondit Marcel, qui, sous sa naïve bonne foi, avait, tout comme un autre, le sentiment du juste et de l'injuste. « Je te donnerai quelque chose, » persista Antoine. « Veux-tu mon couteau ?»« J'en ai un. » « Ma flûte, alors ?» « Tiens, je te la donne. Au fait, elle ne me sert pas à grand-chose, puisque je ne sais qu'un air, et puis ça me fatigue de souffler dedans. Qu'en dis-tu, Marcel, ça y est-il ? » Mais Marcel était trop ému pour répondre. Dans ses rêves les plus ambitieux, il n'avait jamais souhaité de toucher un moment de ses lèvres cet instrument merveilleux, et voilà qu'Antoine le lui offrait, le lui donnait tout de bon. « Pour toujours ?» dit-il enfin d'une voix tremblante. Pour toujours et une semaine de plus. Mais je ne veux pas avoir à m'occuper de ces diantres de vaches, et puis tu m'apporteras tous les matins un grand tas de branches pour la torée, entends-tu ? Oui, oui, s'écria Marcel, qui aurait volontiers accompli des travaux gigantesques pour le prix qu'on lui offrait. Mais tu ne me la reprendras jamais, fais-en ta croix. Le pauvre garçon n'avait certes aucune pensée irrespectueuse en parlant ainsi. Seulement, il lui semblait qu'une transaction de cette importance ne pouvait s'accomplir sans un serment solennel. Antoine, qui était d'une nature assez bénévole, se signa dévotement, puis tendit sa flûte à Marcel et l'affaire fut conclue. Ce jour fit époque dans la vie jusqu'alors si dépouillée du pauvre Bovi. Les harmonies qui chantaient en lui avaient trouvé une voix. Il aima plus que jamais la grande cantate de la forêt quand il put l'imiter et s'y joindre. Tout seul, après bien des tâtonnements et de longues heures d'études, il apprit l'usage de son instrument. Il répéta les mélodies qu'il entendait chanter aux autres bergers. Sous ses doigts, la plus vulgaire ritournelle devenait un naïf poème. Puis il voulut dire aussi sur sa flûte ce que la forêt raconte. Quand sa tâche du jour était terminée, il montait jusqu'à la limite des pâturages déserts et là, assis sur une grosse racine, au pied d'un sapin, il jouait tout ce qui lui passait dans l'esprit. Ses improvisations sans art, mais non sans charme, le plus souvent berçantes et rêveuses, glissaient sous la ramée comme un murmure et, parfois aussi, s'élançaient en fusée comme les roulades brillantes du pinson. Si quelques paysans traversaient par hasard le sentier des pâtures, ils s'arrêtaient un instant pour écouter cette musique et se disaient « C'est Marcel à l'Anastasie, il fait de sa flûte ce qu'il veut ce garçon-là, il faut qu'il soit moins bête qu'il ne paraît. » 5 ans passèrent ainsi. Marcel était devenu grand et fort, bien que sa haute stature parût trop élancée aux paysans qu'il engageait pour les rudes travaux des champs. Son visage pâle et brun avait une expression très douce, mais ses yeux noyés dans le vague semblaient dénoter une intelligence endormie. Elle se fut réveillée peut-être aux appels d'une nécessité pressante, mais, à part la musique, Marcel n'avait aucun intérêt dans la vie. Chaque soir, il recevait son salaire avec indifférence et le portait à sa mère, satisfait du morceau de pain qu'il allait manger dans la forêt. Si Anastasie l'avait voulu, elle eût pu mettre Marcel en apprentissage chez un artisan, mais elle avait décidé que son fils était trop simple pour devenir autre chose qu'un journalier de campagne. Comme il était laborieux et paisible et de bonne commande, disait-on, il ne manquait jamais d'ouvrage, mais il l'accomplissait en machine sans jamais avoir l'air de s'y intéresser. Une rude secousse vint le tirer de sa torpeur. Un soir, c'était peu de jours avant la matinée de juin où commence notre récit, Marcel revenait d'un pas lent à la maison quand il aperçut de loin sa mère affaissée au milieu de leur jardinet, la tête inclinée sur la poitrine et dans une attitude singulière. Alarmé, il se hâta et l'appela « Mère !» Elle ne répondit pas. Il la prit dans ses bras, mais elle glissa inerte sur le sol. Il courut chercher une voisine, on porta la pauvre Anastasie sur son lit, puis on envoya un messager au docteur du village le plus voisin. Il ne vint que le lendemain et pour constater que l'apoplexie était sans remède. Anastasie respira encore quelques heures et s'éteignit sans avoir repris connaissance. Le curé était venu pour lui administrer les sacrements. Des voisines entraient et sortaient à toute minute avec un zèle officieux qui ressemblait plus à la curiosité qu'à la sympathie. Mais Marcel ne voyait personne. Assis auprès du lit de sa mère, il la regardait de ses grands yeux vagues et pendant 2 jours, on ne put lui arracher une seule parole. Quand il vit le cercueil, il poussa un grand cri et se cacha le visage. Mais il ne pleura pas à la grande indignation des voisines. Une main d'acier le serrait à la gorge et aux tempes. Il vit tous les préparatifs de l'enterrement sans y prendre part. On lui noua un crêpe au bras, puis on lui dit de marcher en tête du convoi funèbre, bien peu nombreux, hélas. Il sortit d'un pas incertain et, jusqu'au cimetière, ne leva pas la tête. Quand le service fut terminé et que le champ du repos fut redevenu silencieux et désert, il se laissa glisser à genoux dans l'attitude où nous l'avons trouvé, se sentant si abandonné, si misérable, qu'il souhaita mourir. Tout à coup, un gazouillement lui fit lever la tête. Juste au-dessus de lui, sur une des branches flexibles du sureau, 2 mésanges venaient de se poser et se balancer avec la grâce légère qui distingue ces mignonnes petites bêtes. Puis elles se mirent à chanter. Que dirent-elles à l'esprit troublé de Marcel ? Par quelle influence mystérieuse cette chanson d'oiseau sut-elle détendre un instant l'étreinte poignante qui depuis 3 jours lui serrait le cœur ? Des larmes montèrent à ses yeux. Il pleura longtemps, amèrement, et pourtant il se sentait moins malheureux. Puis, tout à coup, poussé par un désir instinctif, il se leva et, sortant du cimetière, prit le sentier qui traverse les prés pour conduire dans la forêt. N'était-ce pas là qu'il avait trouvé la consolation de tous ses chagrins ? Aujourd'hui, il monte plus haut qu'à l'ordinaire. Il foule d'un pas pressé le fin gazon où le thym commence à fleurir, où les grandes gentianes élèvent leurs tiges comme de sveltes colonnettes. Il laisse derrière lui les vastes pâturages découverts pour s'enfoncer dans le taillis serré qui couronne la montagne. Là, caché par la ramée, qui de tous côtés voile l'horizon et ne laisse apercevoir qu'un petit coin de ciel bleu, il écoute en silence les voix connues qui soupirent ou gazouillent dans les profondeurs de la forêt, puis il prend sa flûte et se met à jouer. Le crêpe noué à son bras et cet instrument de musique, emblème ordinaire de la danse et du plaisir, formaient un singulier contraste. Mais le pauvre Marcel ne croyait certes pas manquer de respect à la tombe récente en exhalant son chagrin de cette manière. La musique était la seule langue dans laquelle il sut exprimer ses émotions. Il joua donc et mit toute son âme dans la mélodie plaintive et brisée que le vent emportait le long des sapins. Peu à peu, sous le charme de l'harmonie, la violence de son chagrin s'apaisa. le chant de la flûte devint plus doux et plus lent, comme les derniers sanglots d'un enfant qui s'endort après avoir pleuré. Quelques notes glissèrent encore, semblables à des soupirs, puis tout se tut. « Bravo, Marcel !» dit une voix qui semblait sortir du fourré. Le jeune musicien tressaillit et, tournant la tête, aperçut derrière lui un homme qui s'était tenu là depuis un quart d'heure et l'avait écouté avec une très vive attention. C'était un paysan, à en juger par son costume. Il portait une longue blouse bleue ornée sur les épaules de broderies en coton blanc et de boutons en porcelaine nacrée. Un chapeau de feutre mou à large bord cachait en partie sa figure sèche, aux lignes aiguës et accentuées. Des favoris grisonnants et très courts encadraient ses joues, sa bouche, dont les lèvres minces laissaient apercevoir deux rangées de dents remarquablement pointues, dénotaient plus de finesse que de bienveillance. Quant aux yeux, qui sont si souvent un correctif dans la physionomie, l'ombre du chapeau ne permettait pas de les bien voir. Ce paysan devait être âgé de 50 ans environ. Sa taille haute et maigre dépassait la moyenne. Il paraissait très vigoureux et le bâton qu'il serrait dans sa main droite n'eût pas été une arme à dédaigner s'il lui avait plu de s'en servir. « Eh bien, mon garçon, comment ça va ? » dit-il en venant s'asseoir auprès de Marcel avec une douceur et une souplesse de mouvement qui produisaient, je ne sais pourquoi, un effet désagréable. « Pas trop mal, n'est-ce pas, puisque nous faisons musique ?» continua-t-il en prenant la flûte posée sur le gazon et en l'examinant avec curiosité. « J'ai eu bien du plaisir à t'entendre, mon garçon, mais dis-moi, ne sais-tu rien de plus gai ?» Marcel, qui n'était jamais d'humeur très causante, détourna la tête et ne répondit pas. « Il court par le monde, reprit le paysan, que si Marcel Auvernet le voulait seulement, il enfoncerait tous les musiciens du pays, accordéons et violonneux. Voyons, Marcel, sois bon garçon et joue-moi un petit air de danse. « Ma mère est morte, répondit-il simplement. « Eh bien, en voilà une bonne, comme si je ne t'avais pas entendu jouer tout à l'heure. « Ce n'est pas la même chose, s'écria-t-il. « Bah, bah, musique pour musique, je n'y vois pas grande différence, mais n'en parlons plus. Comme ça, Marcel, ta mère est au cimetière ?» À cette phrase brutale, le jeune homme, au lieu de répondre, se leva comme pour s'éloigner. « Reste !» dit le paysan en le saisissant par le bras avec quelque vivacité. « Nous avons à causer, mon garçon !» Et il contraignit à se rasseoir. « Écoute-moi bien, et si tu n'es pas tout à fait idiot, tâche de me comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, tu as vécu entre ciel et terre. » Tu ne sais pas même, je parie, à qui appartiennent les quatre murs où tu logeais. C'est à moi, mon beau gars, et comme Anastasie n'était pas trop régulière à payer son loyer, elle a dû m'engager ses meubles, c'est-à-dire que demain matin, l'huissier viendra avec ses gens et fera rafle sur votre ménage. Que diras-tu, Marcel, quand tu ne trouveras plus au logis ni lit, ni table, ni chèvre, ni poule ? « Je dirai, répliqua Marcel, ce que chacun dit au village quand on parle de vous, c'est que tous les voleurs ne sont pas en prison. »« Tiens, fit le paysan sans s'émouvoir le moins du monde, tu as la répartie plus prompte que je n'aurais cru. Mais si tu m'écoutes encore une minute, tu verras que je ne suis pas si mauvais. Je ne te veux point de mal, au contraire. Tu es un brave garçon, quoiqu'un peu bouché, et un bon musicien. J'aime la musique, moi. » Mon second valet de charrue est parti hier. Si tu veux, tu le remplaceras. Les labours sont finis, c'est vrai, mais dans un domaine comme le nôtre, il y a de la besogne pour tous les bras. Tu feras ce qui se présentera. Fendre du bois, piocher les pommes de terre, traire et mener boire, tu connais ça. Je te promets qu'on ne t'éreintera pas par rapport à ton air flué. Tu auras bon lit, bonne nourriture, c'est ma Thérèse qui surveille ça. De plus, 4 francs par semaine si tu marches droit. Et quand, par occasion, on te demanderait d'aller faire musique dans les bals ou les noces du voisinage, je t'en donnerai la permission. Ça pourrait-il te convenir ? Marcel ne répondit pas d'abord. Il pensait à sa maison déserte, à cette chambre au milieu de laquelle il lui semblait toujours voir un sombre cercueil, et la perspective de n'avoir pas à y rentrer lui était un soulagement. Comme tous les êtres un peu primitifs, il était à la merci de ses impressions qu'il ne savait pas dominer et les images lugubres qui l'avaient entouré pendant ces trois derniers jours lui avaient rendu sa demeure presque odieuse. Où irait-il maintenant? La réponse lui était bien indifférente. Pourvu qu'il eût un toit sur sa tête, peu lui importait le reste, et encore, il n'y avait pas même pensé jusqu'ici. Autant chez Félix Prenel qu'ailleurs. « J'irai, » dit-il en se levant. Un singulier sourire détendit les lèvres minces du fermier et découvrit pour un instant ses dents brillantes et pointues comme celles d'un renard. Félix Prenel avait d'autres points de ressemblance avec cet intéressant animal. « Très bien, » dit-il avec nonchalance, « tu viendras quand tu voudras. Retourne chez toi et fais un petit paquet de théardes. Si tu arrives aux Alizis à midi, on te donnera à dîner. » Puis il ramassa son bâton et s'éloigna en enfonçant son chapeau de manière à dérober à des yeux indiscrets tout le haut de sa figure. Marcel avait l'habitude d'obéir passivement aux ordres qu'on lui donnait. Il prit sa flûte d'un air rêveur, la démonta et la mit dans sa poche, puis il sortit de la forêt. Là-bas, au pied de la pâture, une maisonnette de bois se cachait à demi derrière un bouquet de sorbiers. Aucune fumée ne montait du toit, les contrevents noirs étaient fermés, ce qui lui donnait un air de solitude et de désolation. Involontairement, Marcel se prit à frissonner. Rien ne l'attirait vers sa demeure déserte. Cependant, comme son futur maître lui avait dit « retourne chez toi », il descendit de son pas traînant et indécis jusqu'au hameau. « Voici Marcel !» s'écrièrent des bambins qui jouaient sous les sorbiers, et l'un d'eux courut à toutes jambes annoncer la nouvelle à sa mère. Celle-ci était occupée à étendre du linge sur la haie. C'était la jeune femme frêle et douce que nous avons vue sortir du cimetière le matin et qui parlait de Marcel avec compassion. Quand elle vit le jeune homme, elle laissa tomber dans l'herbe la petite chemise qu'elle était en train de tordre et vint au-devant de lui avec empressement. « Comme vous avez été long à revenir, » dit-elle, « je commençais à m'inquiéter. Vous avez rencontré quelqu'un en chemin ?»« Félix Prenel, et il m'a engagé comme domestique. »« Il ne perd pas son temps, » dit la jeune femme étonnée. « J'espère qu'il sera bon maître, Marcel, mais il est trop fin pour vous. J'ai bien peur qu'il ne vous entortille. Savez-vous qu'il va faire une saisie ?» « Votre mère a laissé des dettes, mon pauvre garçon. Il ne vous restera pas grand-chose avec rien. »« Est-ce qu'on prendra la biquette ?» demanda Marcel. « C'est bien probable. »« Alors je vais lui dire adieu. Donnez-moi la clé, Marianne. »« Venez prendre la soupe avec nous quand vous aurez fini, » lui cria-t-elle comme il s'éloignait. « Non, merci, j'irai dîner aux Alizis. » Marianne était bonne, elle avait le cœur tendre, et pourtant ce refus la soulagea. Chez elle, la soupière n'était pas grande et les enfants avaient un si terrible appétit. « Il aura meilleur fricot aux Alizis, » pensa-t-elle en retournant à sa lessive. Marcel était entré dans sa vieille maison. Traversant à la hâte la grande cuisine sombre, il courut dans la chambre pour en ouvrir les volets. Puis il prit dans l'armoire son pauvre linge et ses habits qu'il roula en un petit paquet. Ensuite, il détacha soigneusement de la paroi une mauvaise photographie qui y était clouée, c'était le portrait de son père. Il la baisa avec respect et la mit dans son paroissien. Puis il vint auprès du lit où sa mère était morte. Il s'agenouilla sur le plancher, cachant son front dans les couvertures et sentant confusément que sa vie à lui, son ancienne vie, était morte aussi. Un sentiment qu'il n'avait pas connu jusqu'alors, le regret du passé, la crainte de l'avenir, commençait à s'emparer de lui. Il était bon que Marcel devint homme en cela, lui qui, jusqu'alors, avait vécu comme un enfant, ne songeant pas plus à hier qu'à demain. La renaissance dont il avait besoin devait commencer ainsi. Lentement, il fit le tour de la chambre, regardant et touchant chaque meuble, chaque objet. La répugnance instinctive qu'il éprouvait à revenir dans sa demeure avait disparu maintenant. Les images lugubres s'étaient envolées, il ne voyait plus sa mère morte mais vivante, et, en contemplant pour la dernière fois son rouet, sa corbeille à peloton, la vieille escabelle noircie et le pot de romarin sur le rebord de la fenêtre, Marcel était aussi profondément, aussi douloureusement ému que le grand poète qui s'écriait, en abandonnant le château de ses pères, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?» Marcel n'avait pas su jusqu'alors qu'il aimait sa vieille maison. « Maintenant, je vais dire adieu à Biquette, » pensa-t-il. Une porte basse faisait communiquer la cuisine avec la petite étable sombre où Biquette bêlait piteusement la pauvrette, car elle l'avait oubliée dès le matin. C'était une jolie chèvre noire, à la tête intelligente et fine. Elle s'élança au devant de Marcel en le voyant entrer et se mit à lui lécher les mains. « Oui, ma belle, oui, tu sortiras, » dit-il en la caressant. « Je vais planter ton piquet au plus vert du pré et je ferai ta corde très longue puisque c'est pour la dernière fois. » La gentille bête bondit en voyant la porte s'ouvrir. Marcel courut avec elle jusqu'au bout du pré où l'herbe poussait verte et drue. Il y attacha Biquette, lui donna à lécher une poignée de sel, puis baisa tendrement l'étoile blanche qui brillait entre ses deux cornes et s'en alla. Portant son petit paquet sur l'épaule au bout d'une longue canne d'églantier, il remonta le sentier par lequel il était descendu une heure auparavant et qui, coupant en biais la forêt, conduisait à un joli plateau vert nommé le Clos des Alises. Ce plateau et la riche ferme dont il dépendait étaient bien connus dans le pays. Mais pour faire comprendre les causes de leur célébrité, quelques détails topographiques sont ici nécessaires. Le hameau qu'habitait Marcel, ainsi que le village voisin et la ferme des Alisiers, sont situés dans cette bande de territoire qui appartenait originairement à la Franche-Comté, mais que les traités de 1815 assignèrent à la Suisse. Bien que neuchâtelois dès lors, les habitants de ce petit coin de pays, qu'on appelle aujourd'hui encore la Nouvelle-Suisse, ont gardé, avec la religion catholique et le dialecte franc-comtois, une physionomie à part. Leur accent tout particulier, leur élocution plus vive et plus rapide que celle des Neuchâtelois pur sang, et ce je ne sais quoi d'indéfinissable qu'on nomme le type, les font reconnaître dès l'abord. C'est une race avisée, fine et prudente, qui s'entend admirablement à donner l'œuf pour avoir le bœuf, et pour qui cette œuvre pie que de plumer d'une main légère les protestants, ses voisins et chers compatriotes. La proximité de la frontière est une grande tentation pour ces paysans, habiles calculateurs, et qui inscrivent à l'article des pertes chaque sou qu'ils doivent verser dans les caisses de la douane. Aussi, tout le long de la montagne, la contrebande est-elle en grand honneur. C'est un art qui a ses adeptes, ses enthousiastes et parfois ses martyrs. Pour dérober à la visite des gabellous quelques sacs de café ou quelques paquets de tabac, on accomplit des prodiges d'audace et d'adresse. Le point d'honneur s'en mêlant, on expose sa vie pour le simple plaisir de faire la barbe aux douaniers. Les annales de la contrebande, qu'on se raconte à voix basse à la veillée, sont aussi tragiquement intéressantes que l'histoire des campagnes héroïques et savantes de Napoléon. Mais dans ce métier, comme dans tout autre, les seuls qui s'enrichissent sont les habiles, ceux qui laissent à autrui le soin de tirer les marrons du feu. Et parmi ses habiles, Félix Prenel, le maître des Alisiers, brillait au premier rang. Sa ferme était admirablement située pour la contrebande. Assez distante de la douane, mais peu éloignée de la frontière, elle était le rendez-vous de tous les gars aventureux que les douaniers voyaient de mauvais œil. On assurait que depuis 30 ans, un vingtième à peine des produits de cette ferme, où l'on faisait 2 quintaux de fromage par jour, avait payé les droits en France. Rien d'étonnant que Félix Prenel fût devenu le plus riche propriétaire du pays et le prêteur ordinaire de tous les paysans qui avaient besoin de petits capitaux. Lui-même ne se compromettait guère dans ses expéditions de passe-passe et le jour où, par son ordre, une voiture chargée de fromage franchissait clandestinement la frontière, frustrant ainsi les caisses de l'État d'une 100aine de francs, Félix Prenel payait avec ostentation 2 sous au péage pour un paquet de pain d'épices qu'il rapportait de Morteau à sa fille. Car ce paysan sec et tenace, ce prêteur à gros intérêts, cet homme qui aimait l'argent, aimait aussi sa Thérèse, sa fille unique, et il avait pour elle de menues attentions dont on l'aurait cru incapable. Il voulait la faire la plus riche du district, afin qu'elle fût aussi la plus recherchée et qu'elle pût choisir entre tous les partis. Depuis bien des années, ce but unique l'absorbait, et sa finesse naturelle venant en aide à cette préoccupation constante, il savait tirer gain et profit de toutes sortes d'affaires. On disait communément dans le pays qu'il n'était personne comme Félix Prenel pour découvrir le côté le mieux beurré de la tartine. Était-il donc probable que cet habile homme eût recueilli Marcel pour l'amour de Dieu et par compassion pure, quand il pouvait trouver ailleurs un jeune domestique plus robuste et plus intelligent? Mais Félix Prenel était discret autant qu'adroit. Il ne faisait pas de bruit autour de ses pièges et l'on apercevait le trébuchet que lorsque l'oiseau était pris. Marcel, dans sa simplicité, n'en demandait pas si long. Il allait aux Alisiers pour y être valet de charrue et domestique à tout faire. Et quand ses pensées, qui vagabondaient comme des hirondelles dans les espaces bleus, redescendaient pour un instant sur terre, il murmurait à part lui « Félix Prenel est un brave homme tout de même, si seulement il gardait la biquette !» Le chemin que suivait Marcel était un joli sentier sous bois que les hêtres qui croissaient des deux côtés ombrageaient d'une voûte légère de feuillage en entrelaçant leurs sveltes parasols. Au-dessus, l'azur lumineux brillait par éclaircies et quelques rayons égarés jouaient comme des feux follets sur les troncs et les mousses veloutées. « Oh, que la forêt est fraîche et paisible ! Tout y parle de repos et tout cependant y est vivant, animé, tout y bruit, fourmille et bourdonne. On n'y sent pas la solitude, on s'intéresse à ces mille existences infimes qui s'agitent dans l'herbe ou sur les branches, aux pérégrinations de ce gros scarabée vert qui trottine d'un air affairé, à l'embarras d'une fourmi qui ne sait comment traverser un affreux ravin profond de 3 pouces et à laquelle on fait un pont d'un brin d'herbe, à la conversation de deux merles qui se souhaitent le bonjour. Marcel, en véritable enfant, s'attardait à l'ordinaire à toutes ces rencontres. Mais aujourd'hui, désirant satisfaire son maître en arrivant à l'heure prescrite, il n'accorde qu'un signe de tête à ses connaissances de la forêt. Bientôt, il arrive sur le plateau, bordé d'une haie touffue de coudriers et d'alisiers au feuillage blanchâtre, sous lesquels le sentier se glisse un instant, pour escalader ensuite un petit tertre qui abrite contre le vent du nord la belle ferme de Félix Prenel. C'est une grande maison couverte en ardoise, proprement blanchie à la chaux et dont les volets ont été récemment peints en brun clair. De gais rideaux blancs ornent les fenêtres du rez-de-chaussée. Toutes les vitres, même celles des guichets qui éclairent la grange, sont nettes et brillantes. Le dallage qui précède la porte d'entrée a été soigneusement balayé et aucune mauvaise herbe ne pousse entre les pierres. Tout le long de la façade s'étend un joli jardinet où des pois de senteur en pleine floraison embaument l'atmosphère. Mais la merveille de la cour est une bordure d'œillets roses et blancs qu'on a plantée sur le mur de la citerne et qui couronne ces vieilles pierres grises d'une guirlande touffue et parfumée s'élançant en aigrette ou se balançant gracieusement en feston et en girandole. À dire vrai, Félix Prenel n'aimait pas trop ces herbes-là, car, disait-il, ça ne sert qu'à desceller les pierres. Mais je le passe à Thérèse. Les fleurs, voyez-vous, c'est son dada, et, à part ça, elle est bonne ménagère. À défaut de cette déclaration paternelle, la cour, le poulailler, le jardin potager et tous les alentours de la ferme eussent pu témoigner des hautes qualités domestiques de Thérèse Prenel. Partout régnait l'ordre le plus parfait. Aucun outil aratoire ne traînait sur le pont de grange. L'immense tronc creusé qui servait d'abreuvoir aux vaches était rempli d'une eau parfaitement limpide. Sur la barrière du jardin, des seaux à traire, blancs comme neige, séchaient au soleil. L'orgueil du paysan, un énorme fumier artistiquement tressé, se dressait derrière la maison, car Thérèse avait déclaré qu'elle tenait point du tout à avoir ce monument sous ses fenêtres.